Radio Kapi.
Malgré les mauvaises et difficiles conditions aux côtés des terroristes et rebelles du M23, certains habitants de Rutshuru acceptent de retourner dans leur village. C'est compte tenu de la précarité de vie et souffrance dans les cités déplacées. Information à suivre en ouverture de ce journal. En actualité, c'est aussi ces malentendants dans la ville cuprifère de Lubumbashi qui tiennent à ce que la CENI mette en place à leur bénéfice un bureau d'enrôlement à cause des difficultés qu'ils rencontrent dans ce existant, ce qui justifie leur prise de colère devant le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Nous parlons activisme des terroristes du M23 dans la partie est de la RDC avec Placide Ndilamba. Il est secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu qui donne de la voix comme invité au nom des coordinations des sociétés civiles des deux Kivu pour que les forces de l'EAC traquent et mettent fin à cette aventure terroriste M23, frein de tout développement. Tous ensemble, nous découvrons sous peu les autres articulations de l'actualité de notre pays. Merci de nous choisir. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Dans le Nord Kivu, les populations des quelques entités du territoire des Rutshuru commencent à retourner timidement dans leurs maisons. C'est depuis environ un mois maintenant que s'observe ce retour progressif. Les mauvaises conditions dans les sites des déplacés ne leur permettent plus de survivre, disent-ils. Ils déclarent que c'est à leur risque et péril. Ils souhaitent ainsi vivre sous la barbe des rebelles que de mourir de faim. Ces personnes avaient fui les combats du M23. Le point avec Honoré Missenga Kalala.
Ce retour est observé pour la majorité dans les groupements Binza, Bukoma, Rutshuru Centre, dans la cité de Kiwanja et dans les agglomérations de Rubare, Bunagana et Rumangabo. Ils sont pour la plupart ceux qui ont fui vers Kanyabayonga, Kibilizi, Vichumbi et dans le Lubero. Ces retournés disent être fatigués d'une vie de précarité dans des sites de déplacés. Ils déclarent également être découragés, sans espoir du côté du gouvernement pour rétablir la paix dans leur milieu d'origine, vu l'espace que continuent à occuper les rebelles. Ils décident ainsi, avec angoisse, de rentrer chez eux, affirme un retourné joint au téléphone à Kiwanja qui se dit désespéré. Ces retournés indiquent que dans ces zones de retour, plusieurs structures sanitaires et pharmacies n'ont plus de médicaments et produits de première nécessité. Les rebelles auraient interdit à tous de faire entrer des médicaments dans cette région. Les écoles ne sont toujours pas fonctionnelles non plus. Cependant, d'autres sont toujours sceptiques de retourner. Leurs villages sont toujours sous occupation des rebelles du M23 et leurs alliés. Ce sont les habitants de Tongo, Bambo, Bichusha, Kisigari et Rugari notamment. Des affrontements sont toujours signalés dans ces entités.
Pendant ce temps, plusieurs villages dans le territoire de Masisi se vident de leurs habitants ces derniers jours depuis la prise de Kichanga par le M23. La société civile locale indique que les habitants de plusieurs agglomérations dans la zone de Kichanga et sur l'axe Sake-Kichanga sont en débandade. Ils se sont éparpillés dans la partie ouest et sud du territoire, craignant ainsi l'avancée du M23 qui s'affronte depuis environ une semaine avec les FRDC. Du coup, la situation humanitaire de ces milliers de déplacés est désastreuse car ils sont dépourvus de tout. La société civile sollicite un couloir humanitaire afin d'éviter le pire. Bernardine Diambou.
Ces milliers de déplacés ont quitté les localités de Kichanga, Mweso et Kalembe il y a quelques jours, affirme la société civile locale. Certains se sont dirigés dans la partie ouest de Masisi, selon la société civile de Sake. Depuis hier jeudi dans la soirée, la cité de Sake est située seulement à environ 30 km de Goma, a accueilli plusieurs déplacés en provenance de la partie sud du territoire. C'est notamment les populations de Kiloliroué, Makombo, Karenga, Kabati, Kakomero, Kingi et Nyamitaba. Ces derniers ont trouvé refuge dans des écoles et églises de la place, tandis que d'autres sont dans des familles d'accueil. Les présidents de la société civile de Masisi sollicitent un couloir humanitaire afin d'éviter les pires vu la situation humanitaire désastreuse.
La population ne bénéficie même d'aucun couloir humanitaire pour bénéficier soit à certaines assistances. Pour aujourd'hui, nous sommes en train de craindre que cette calamité qui frappe cette population, il y a des personnes qui sont déjà décédés faute de nourriture.
À noter que ce vendredi, toutes les activités scolaires ont été paralysées à Sake. La société civile de Sake craint une probable famine à Goma et Sake car, selon lui, ces deux villes sont approvisionnées en produits vivriers à partir de ces villages qui se vident de ses habitants, notamment en patates douces, manioc, légumes, braises et bois de chauffe. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Sous les lignes de front, on signale hier vendredi un calme précaire dans le territoire de Massissi après d'intenses affrontements entre la rébellion et l'armée le jeudi autour des Kiroliroé dans le groupement Bachali Kahembe. Les villages de Kiroliroé, 22 km au nord de Saké, Nyamitaba, Rouchebeche sont passés sous occupation de ces rebelles du M23 depuis jeudi. Des sources concordantes indiquent que la prise des Kiroliroé accroît un peu plus la menace sur la cité de Saké située à une trentaine de kilomètres de Goma. Un mouvement de panique et psychose a gagné la population de Saké, Mushaki et des villages environnants qui ont pris fuite. L'occupation de ces nouvelles entités aussi importantes s'ajoute sur d'autres déjà occupées dans le territoire de Massissi, en l'occurrence la cité de Kichanga. D'après les sources dans la région, les rebelles cibleraient les villages l'axe Mushaki pour couper la ville de Goma complètement au reste de la province par l'axe Saké. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC se retrouvent ce samedi 4 février à Bujumbura au Burundi. D'après plusieurs sources, c'est sur invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye, en même temps président en exercice de cette communauté. La porte-parole de la présidence congolaise, Tina Salama, interrogée par Radio Okapi, a confirmé la réunion de ce samedi et affirme qu'il s'agit d'une réunion d'évaluation du processus de Luanda. Toujours à propos de l'EAC, le secrétaire général de la communauté des pays d'Afrique de l'Est, EAC, demande à la RDC des explications claires et urgentes sur le renvoi des officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma. Dans un communiqué du 1er février rendu public dans la soirée du jeudi 2 février adressé au ministre congolais des Affaires étrangères, le secrétaire général de l'EAC rappelle à la RDC que la décision de déployer les soldats était une décision des chefs d'État. Le ministre n'a pas compétence de modifier ses décisions, dont le président Tshisekedi est signataire. Le point avec vous, Noëlla Luzitu.
Quelques jours après l'annonce de la décision de la RDC notifiée aux commandants de la force régionale de rapatrier dans leur pays les 3 officiers rwandais affectés au quartier général de cette force, les réactions n'ont pas tardé. Dans son communiqué, le secrétaire général de cette organisation, Peter Mutuku Mutuki, indique que la communauté des pays d'Afrique de l'Est a appris avec inquiétude le 30 janvier dernier l'expulsion vers le Rwanda de 3 officiers déployés par ce pays au quartier général de la force. Conformément aux accords signés par le sommet des chefs d'État à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre 2022, chaque État membre est autorisé à déployer un officier de liaison au quartier général de la force pour soutenir le centre de commandement régional. La RDC, à travers un communiqué de l'État-major général des FRDC du 30 janvier, en a décidé autrement. Elle a décidé l'expulsion des officiers rwandais pour motifs sécuritaires. Dans le même communiqué, l'état-major des FRDC précise que le Rwanda venait également de rappeler tous ses officiers qui prenaient part aux différents mécanismes de sécurité en RDC. Selon l'esprit de ce communiqué officiel, la RDC et l'EAC ont convenu que la force et son personnel jureront des privilèges et immunités qui sont spécifiés dans l'accord et le protocole de l'EAC sur la coopération dans les affaires de défense et ce, en vertu de l'article 2 du SOFA. Pour rappel, la RDC avait déjà indiqué qu'elle ne souhaitait pas les troupes du Rwanda dans cette force parce qu'elle accuse Kigali de soutenir le M23.
À ce sujet, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est resté injoignable. Ici à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu hier vendredi en audience à son bureau de la Cité de l'Union africaine une délégation belge conduite par Madame Adab Labib, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, accompagnée de l'ambassadeur belge en RDC et d'autres diplomates belges. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, les relations diplomatiques et la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La Belgique, à l'initiative de la nouvelle stratégie européenne sur les grands lacs africains en cours d'élaboration, veut aider à la baisse des tensions entre Kinshasa et Kigali. Bruxelles avait été l'un des premiers pays européens à condamner le soutien du Rwanda au M23. Deuxième titre de ce journal. Une centaine de malentendants de Lubumbashi ont pris d'assaut hier vendredi le siège de la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, exiger qu'un bureau d'inscription et d'enrôlement leur soit ouvert car ils éprouvent d'énormes difficultés pour se faire enrôler dans les différents centres de la ville. La CENI les appelle au calme. Jean Gandou pour les détails.
Ces manifestants se sont présentés ce vendredi matin au bureau de la CENI, accompagnés de leurs encadreurs ainsi que de leurs interprètes. Ils voulaient faire entendre leur voix au sujet du processus électoral en cours. D'après eux, ils ne sont pas bien accueillis dans les centres où ils vont pour se faire enrôler. Leur souhait, c'est d'être tous reçus dans un seul bureau au siège de la CENI pour qu'ils accomplissent leur devoir civique. Cette descente au bureau de la CENI est la deuxième en l'espace de 2 jours. La veille, ils étaient encore plus nombreux avec les mêmes revendications. Pour la CENI, il n'est nullement pas question d'ouvrir un centre réservé uniquement aux malentendants à son siège. Chacun doit rentrer dans sa commune pour se faire enrôler, car c'est là qu'il devra voter le moment venu. Il leur a été aussi demandé d'élaborer des listes de ceux qui sont éligibles à l'identification et à l'enrôlement selon les communes où ils vivent. Ces listes seront par la suite envoyées dans les bureaux de ces communes pour ainsi faciliter leur enrôlement ainsi que leur identification. La CENI prévoit une rencontre très prochainement avec les représentants des personnes vivant avec handicap en général, dans l'espoir de dissiper tout malentendu. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Nous retournons dans la partie est de la RDC Nord-Kivu. Une fois de plus, plusieurs tomes de matériel électoral ont été transportés par la MONUSCO à Beni à partir de Goma cette semaine. C'est en prévision du début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province. La société civile provinciale plaide pour une garantie sécuritaire en vue de rendre effectif ce processus sur toute l'étendue de la province. Sadiki Aboubakar pour les détails.
À quelques jours du lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au Nord-Kivu, plusieurs entités de la province sont en proie à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Une situation qui préoccupe la société civile du Nord Kivu. Edgar Matesso, son premier vice-président, appelle le gouvernement congolais et ses partenaires à tout mettre en œuvre en vue de faciliter le processus électoral.
Notre crainte, c'est que certaines zones sous contrôle des groupes armés risquent de ne pas avoir accès, non seulement au matériel de l'enrôlement des électeurs, mais aussi au processus lui-même de ces élections.
Dans la région des Beni et Lubero, où il y a activisme de rebelles des ADF et des miliciens Maïmaï, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 des FRDC, rassure.
Nous sommes conscients de ces défis sécuritaires. Nous avons même le renseignement que le terroriste ADF-MTM a déjà des intentions de saboter ces processus. Donc nous sommes obligés en tant qu'armée de non seulement sécuriser le matériel, mais aussi prendre soin des agents et même la population qui vient chercher leur carte.
Signalons que dans la partie sud de la province, plusieurs entités sont sous occupation des rebelles du M23. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, alors que l'enrôlement des électeurs en prévision des élections générales de 2023 est attendu à partir du 15 février prochain, la nouvelle dynamique de jeunes de la société civile se lance dans la campagne de sensibilisation afin que les électeurs tiennent compte des hommes et femmes au profil requis. Cette campagne est appréciée différemment par la population. Un reportage de Jacques Mukonkole.
Les membres de la nouvelle dynamique des jeunes de la société civile de la Tchopo disent mener cette campagne afin que le vote des représentants de la population à tous les niveaux soit un vote utile. Christian Kambi, coordonnateur national de cette campagne, dresse le portrait robot des personnes attendues.
Les potentiels candidats doivent être de très bonne morale. Ils doivent avoir une forme de dévouement très élevée. En titre d'exemple, le premier ministre Emery Patrice Lumumba.
Certains habitants de la ville adhèrent à cette vision de cette citoyenne.
Beaucoup ont perdu même l'essence de leurs responsabilités. Beaucoup se sont lancés dans d'autres choses au lieu de faire le travail que la population les avait confié.
Nous devons avoir une nouvelle classe politique qui ne fera pas comme la première. Parce qu'on dit la folie, c'est le fait de procéder avec la même méthode et s'attendre aux résultats différents.
Pour le député national Simon Ikenge, la souveraineté appartient au peuple. L'essentiel est d'éclairer son choix afin qu'on ait une classe gouvernante responsable.
Tous les députés ne sont pas comparables. C'est chaque élu qui a un bilan à défendre devant sa base. Et il appartient à la base d'en disposer comme elle veut.
Après Kisangani, la nouvelle dynamique des jeunes de la société civile compte étendre cette campagne dans d'autres provinces du pays. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le pape François a lancé un appel à la paix au Soudan du Sud lors d'un événement où il était assis côte à côte avec le président du pays vendredi. François, en mission œcuménique de paix inédite dans le plus jeune pays du monde, a averti vendredi les dirigeants politiques du Soudan du Sud que l'histoire les jugera sévèrement s'ils continuent à traîner les pieds pour mettre en œuvre un accord de paix de 2018. Au nord de Pretoria, les Sud-Africains sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère face aux pénuries d'eau et aux coupures d'électricité. Déjà privés d'électricité jusqu'à 10 heures par jour, de nombreux Sud-Africains doivent aussi se passer d'eau. À Johannesburg et Pretoria cette semaine, dans la région la plus peuplée du pays, une panne électrique dans une station de pompage alimentant réservoir et château d'eau a mis à sec nombre des robinets, a confirmé la société Rand Water.
L'invité.
Réunis à Goma le 30 janvier dernier, les coordinations des sociétés civiles Forces vives du Nord Kivu et du Sud Kivu ont adressé un mémorandum conjoint au président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, dont la RDC est membre. Dans ce mémo, les deux coordinations expriment leur ras-le-bol devant la souffrance imposée à la population par l'avancée des rebelles du M23 RDF. Elle demande à Evariste Ndayishimiye de convoquer le plus vite possible une réunion des chefs d'État de la région afin de commencer la traque contre ces rebelles du M23 RDF. Cela conformément à la décision du 23 novembre 2022 à Luanda. Nous en parlons avec Placide Ndilamba, secrétaire exécutif de la société civile du Nord Kivu, dans cet entretien avec Jules Ngalawa Mona.
Monsieur Placide Ndilamba, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Les sociétés civiles, forces vives du Nord Kivu et du Sud Kivu, réunis à Goma, ont adressé un mémorandum. Qu'est-ce que vous réclamez?
En fait, le mémorandum produit en date du 30 janvier 2023 porte sur l'indignation de la population Nord Kivu et du Sud Kivu face à la dégradation de la situation sécuritaire, surtout en province du Nord Kivu. Ce mémorandum est le fruit d'une analyse effectuée sur la situation sécuritaire après la publication du communiqué du 23 novembre 2022 à Luanda avec les chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Et ce communiqué demandait au M23 de se retirer de toutes les zones conquises. Malheureusement, jusqu'au 15 janvier, qui était la période instituée alors par la réunion des chefs d'État-major généraux qui s'était tenue, je crois, à Bujumbura, le 15 janvier est dépassé, mais le M23 ne sait pas retirer. Ce qui nous a fort indignés, c'est que après la prise de Kichanga, pour attester que le Rwanda est déterminé, il a osé des tirs sur les bombardiers des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient en phase d'atterrissage dans la ville de Goma. Un bombardier qui transportait encore des missiles. Alors, nous on se demande si ces bombardiers allaient exploser. Qu'adviendrait-il pour la ville de Goma, une ville très peuplée où tous les déplacés se sont rassemblés? C'est une cruauté qui dépasse les niveaux. C'est une détermination pour rendre en cendres les populations congolaises. Et c'est pourquoi nous on dit trop c'est trop. À partir de ce début février, nous allons commencer des actions de grande envergure, des manifestations pour contraindre les chefs d'État de l'East African Community, en premier lieu le président en exercice, le président du Burundi, parce que le communiqué de Luanda dit le président du Burundi devait convoquer les chefs d'État après l'expiration du délai pour qu'ils prennent la décision de donner ordre à la force de l'EAC d'attaquer le M23. Mais depuis le 15, le délai s'est expiré, tous sont calmes comme si rien n'était et les populations congolaises sont en errance en train de souffrir du fait de la cruauté du M23.
Est-ce que vous pensez que votre mémorandum va forcer la main aux décideurs?
Effectivement, nous y croyons parce que s'ils se disent dirigeants, c'est qu'ils gouvernent pour leur peuple. Et le peuple congolais est parmi ce peuple-là. Nous leur demandons de nous rendre la paix, comme nous avons rendu la paix aux autres. L'hospitalité de la République démocratique du Congo ne doit pas nous coûter. En tout cas, ça ne doit pas nous coûter. Nous avons accueilli des gens, même tous ceux qui nous font la guerre ont reçu de l'hospitalité la République démocratique du Congo. Quelle ingratitude dans cette région. Et nous sommes en train de nous dire, nous allons nous prendre en charge s'ils n'agissent pas, et toutes les responsabilités seront sur les épaules de la communauté internationale.
Comment vous allez vous prendre en charge après ce mémorandum?
Nous allons organiser d'abord des manifestations pacifiques, populaires. Après ces manifestations pacifiques, si rien n'est fait, nous allons organiser cette population et nous allons l'amener à Rutshuru et à Kichanga pour aller récupérer ces terres. Tant mieux mourir sur les terres de ses ancêtres que d'être esclave tous les jours.
Comment cela va-t-il se faire? Mais nous,
en tout cas, nous n'allons pas aller avec des armes. Nous irons mais nous, devons nous rassurer que nous contrôlons nos terres. Parce que chaque jour, nous devons fuir. Donc après chaque cycle, Juste quand on approche les élections, une rébellion. Après chaque élection, une rébellion. Encore menée par les mêmes personnes, les mêmes conspirateurs, même auteurs moraux et même auteurs matériels. Les mêmes noms reviennent chaque jour. Donc, nous demandons au président de l'EAC de le faire urgemment et de donner ordre à cette force de pouvoir traquer les M23 et redonner la paix à nos populations qui doivent rentrer chez eux. Surtout que cette population vit de l'agriculture. Toute une saison est en train de s'épuiser alors qu'ils sont dans des camps. Comment ils vont vivre? C'est les condamner à la pauvreté et avec la pauvreté, c'est la mort.
Placide Zilamba, Radio Capi, vous dit merci.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà comment se referme cette édition de journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons sincèrement merci de l'avoir suivi, tout en vous signifiant que ce journal vous a été préparé par Noël Alouzitu et l'ensemble de toute la rédaction, et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté.